Au téléphone sonne donc ce soir la rencontre en ce moment entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Une rencontre qui se veut chaleureuse dans la forme, mais sans trop de concessions sur le fond. Une visite de travail, ça se passe au fort de Brégançon. C'est la résidence d'été du président français à 5 jours du prochain G7 à Biarritz. Avec quelques lourds dossiers sur la table de travail et des divergences qui persistent, notamment sur le dossier syrien ou la répression contre les manifestants russes qui réclament plus de démocratie et une once d'espoir bien maigre sur le conflit à l'est de l'Ukraine. Et bien, sur tous ces dossiers et bien d'autres ce soir, quels sont les projets de Vladimir Poutine et quelle est l'influence réelle de la parole française? D'ailleurs, où en sont les rapports franco-russes? Toute l'équipe du téléphone sonne attend vos questions au 01 45 24 7000.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Et pour répondre à vos questions, ce soir, deux invités. Vladimir Fedorovski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur russe à Paris, écrivain. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer la sortie de votre prochain livre. Ce sera le 43e en octobre. Ça s'appellera « Le roman vrai du docteur Jivago ». Ça sortira aux éditions du Seuil. Invité également pour répondre aux auditeurs, Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes professeur à Sciences Po et président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Alors un petit espoir, un petit signe positif, on l'a entendu dans le journal ce soir, ça concerne le dossier ukrainien avec les propos de Vladimir Poutine qui reconnaît désormais un optimisme prudent après ses premiers contacts avec le nouveau président Zelensky. Un optimisme prudent, Nicolas Tenzer, dans la bouche de Vladimir Poutine, ça signifie quoi ?
Ben, ça signifie qu'il considère que le nouveau président ukrainien, Zelensky, est susceptible d'avoir une attitude plus conciliante que son prédécesseur Porochenko, mais je doute fort que cela puisse se passer dans la mesure où l'agression de la Russie contre le Donbass, je ne vois pas véritablement de raison qu'elle cesse, que la possibilité d'avoir des élections libres dans cette même région paraît extrêmement incertaine dans la mesure où elle est sous contrôle soit de l'armée russe, soit des séparatistes qui ne vont pas laisser les voix dissidentes s'exprimer. Et puis, il y a quand même un autre dossier qui est la Crimée, qui est annexée de manière illégale par la Russie. Et il n'y a strictement aucun signe, malheureusement, pour que Vladimir Poutine puisse, ou veuille plus exactement, rendre la Crimée à son propriétaire normal, qui est l'Ukraine. Donc, je crois que là où il peut y avoir un signe, c'est évidemment le dialogue, dans ce qu'on a appelé le format Normandie, hein, qui ont défini des accord de Minsk. Le président Macron pousse beaucoup dans cette voie. Donc oui. Peut-être qu'il y aura un nouveau round de discussion, mais guère plus.
Ben justement, pour ramener la paix en Ukraine, Emmanuel Macron propose ce soir un sommet à quatre, encore avec la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, pour relancer donc ce processus de Minsk conclu en 2015. Vladimir Fedorovski, à quelles conditions Vladimir Poutine pourrait-il y être favorable à ce sommet et à une solution de sortie de crise ?
La sortie de crise, vous savez, vous avez balancé un tas d'idées reçues. Comme je suis ukrainien, je suis un peu gêné par rapport à ça.
Mais allez-y, corrigez-les. S'il y a des idées reçues, corrigez-les.
Bien sûr, parce que vous savez, vous répétez la même chose, mais l'intérêt national ukrainien, comme ukrainien, je tiens à vous dire, c'est de ne pas être fer de lance de la politique de confrontation avec la Russie. La crise ukrainienne, c'était un aboutissement de tout un tas de choses post-communistes, de l'idiotie diplomatique de post-communiste qui a amené à une tension vertigineuse avec la Russie, et la crise autour de ça, 2014, a donné maintenant le résultat tout à fait concret. La Russie ne veut pas du tout l'Europe. La Russie, vraiment, là, tout seul, vous savez,
ces idées. L'Europe, c'est notre dossier. On va rester sur l'Ukraine pour l'instant.
Excusez-moi, l'Ukraine est liée avec ça. La crise ukrainienne a engendré la rupture, dans la réalité, presque définitive entre la Russie et l'Occident. Et la création d'un bloc militaire et économique presque inévitable avec la Chine. C'est pas l'intérêt de la Russie, en tout cas, je considère comme ça, et c'est pas l'intérêt du tout de l'Occident. Et la rencontre aujourd'hui du président Macron et de Poutine est vraiment une sorte de tentative de renouer les dialogues et d'éviter cette rupture. Et ça, c'est quelque chose d'important. En ce qui concerne l'Ukraine, on peut continuer avec l'escalade verbale, l'escalade militaire, etc. Mais ça n'amènera à rien. Il faut, Macron a utilisé le mot une désescalade.
Oui, une désescalade, mais...
Désescalade, c'est quelque chose d'important, parce que les gens sont tués là-bas.
Bien sûr.
Il faut dire, on ne va pas faire vraiment l'histoire de ça, mais j'aurais pu vous raconter les contradictions entre les
malheureusement,
droits de peuple,
Vladimir Fedorovski.
Droits de peuple, information, etc.
Vladimir Fedorovski, je vous propose un contrat entre nous, parce que vous êtes au téléphone et que la ligne n'est pas très bonne. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Vladimir Fedorovski, de faire des réponses un peu plus courtes, et puis pour donner aussi la parole aux auditeurs. Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po et président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique en Ukraine. Les séparatistes pro-russes font toujours preuve d'une violence. Hein. Le président ukrainien Zelensky a même demandé à Poutine d'influer sur les pro-russes pour qu'ils calment le jeu. Vladimir Poutine a-t-il envie de calmer le jeu à l'est de l'Ukraine ?
C'est là où j'ai, je dois dire, la plus forte inquiétude, parce que c'est vrai, cette guerre, finalement, à 3 heures de Paris, il faut le rappeler, c'est une guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a fait 13 000 morts, environ 1,6 million de déplacés, et on ne voit pas malheureusement aujourd'hui Vladimir Poutine retirer en quelque sorte ses troupes de l'Ukraine et de la Crimée par ailleurs et accepter une sorte de négociation et d'accord de bon voisinage. Moi je suis tout à fait d'accord, je pense que l'Ukraine et la Russie ont toutes les raisons de pouvoir coopérer, de vivre ensemble de manière pacifiée, mais il faut encore une fois, je pense que c'est absolument nécessaire que la Russie fasse le premier pas. L'Ukraine elle-même est un pays qui a été agressé. L'agresseur, c'est la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Donc je pense qu'il faut redire quand même ces choses qui sont la base de la compréhension. Alors, encore une fois, dialoguer, oui. Si on peut avoir de nouveau ce format de Normandie à 4, Ukraine, Russie, Allemagne, France, c'est très bien. Mais il faut nécessairement que M. Poutine comprenne que ce n'est pas son intérêt de continuer à tuer des Ukrainiens.
Allez, 01 45 24 7000, c'est le numéro de téléphone au standard de France Inter. Vous posez vos questions ce soir sur la politique de Vladimir Poutine et la rencontre ce soir entre les présidents russes et français au fort de Brégançon avec Denis qui nous appelle de l'Oise. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir. Voilà, j'aimerais poser une question à vos invités.
Allez-y.
J'aimerais savoir si la rencontre de Brégançon a été voulue par Macron uniquement pour réintégrer la Russie au sein du G7 qui deviendrait le G8 à nouveau, par pure G8. Stratégie politique, tout en sachant qu'il n'obtiendrait rien de celui-ci sur les questions ukrainiennes, iraniennes et sur les libertés politiques où on emprisonne vaillamment les opposants à Poutine.
Alors on va poser la question à nos invités. Vladimir Fedorovski, un ancien ambassadeur russe à Paris.
Est-ce que moi je suis écrivain, tout d'abord écrivain.
Oui, mais on s'intéresse ce soir à la...
Je tiens à vous dire,
oui.
Vous comprenez, il ne faut pas, vous savez, vous répétez les idées reçues. Moi je suis ukrainien d'origine.
Vous l'avez déjà dit, Vladimir Fedorovski.
Présenter les choses comme ça, c'est une chose qui était voulue par les deux présidents, qui est profitable aux deux présidents à court terme et à long terme. Mais détrompez-vous, la Russie ne veut pas s'intégrer dans la réalité du G8. Aujourd'hui, Poutine, pour lui, ça n'existe pas. Il est ouvert au dialogue, mais pas plus que ça. Mais le résultat de ça, je vous répète, c'était une rupture presque définitive entre la Russie et l'Occident et la création de blocs occidentaux, anti-occidentaux de la Russie avec la Chine. C'était contre-productif. Je pense que le président Macron, qui est dans la filière de vision aujourd'hui, de renouer avec la tradition de défense des intérêts nationaux, il a bien compris que ce n'est pas l'intérêt de ça.
Merci,
d'où
Vladimir.
L'importance très importante de cette rencontre.
Nicolas Tenzer, à en croire Vladimir Fedorovski, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de réintégrer un groupe à 8 des principales puissances économiques du monde ?
Ouais, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que M. Poutine l'aimerait beaucoup, mais il n'est pas question, compte tenu des crimes de guerre que la Russie commet en Syrie, aussi en Ukraine d'ailleurs, et des violations majeures des droits de l'homme, que le G8, qui serait transformé ainsi après le G7, accueille à nouveau la Russie. Le G7, c'est un club de nations qui sont en principe démocratiques. La Russie ne répond pas à ces caractéristiques. Alors pour répondre à la question de Denis, votre notre auditeur. Je crois que, effectivement, M. Macron considère qu'il faut évidemment discuter avec la Russie, on ne va pas rompre les relations diplomatiques, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il puisse attendre grand-chose de cette rencontre. Les positions sont totalement opposées, il veut juste montrer, voilà, qu'il faut continuer le dialogue, mais encore une fois, ni sur la Syrie, ni concrètement, parce qu'il faut rentrer dans le détail de ce qui peut se passer en Ukraine, ni évidemment sur la question des droits de l'homme, ni d'ailleurs sur la question des ingérences de la Russie dans la vie démocratique des nations, dont la France, on puisse attendre grand-chose. On a malheureusement une puissance illibérale. Le président Poutine l'a déclaré lors d'un entretien il y a un mois au Financial Times. Il vomit en quelque sorte les valeurs démocratiques. Il vomit la question, le libéralisme politique dans son principe. Il a décidé de torpiller l'ordre international avec ses 12 vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de la Syrie. Il commet donc ces violations graves du droit humanitaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire malheureusement avec cet État tant que M. Poutine est au pouvoir? C'est ça le sujet, ce n'est pas la Russie en tant que telle qui est visée. La Russie devrait être un partenaire de l'Europe à long terme, on est tous d'accord là-dessus. C'est même très important pour le devenir de la Russie elle-même. Malheureusement, avec le régime actuel, c'est totalement impossible.
Dans la question de Denis, il y avait aussi une question sur Emmanuel Macron, à savoir est-ce que la France n'a pas en ce moment une carte à jouer sur la scène internationale, sachant que le Royaume-Uni est trop empêté très dans son Brexit pour avoir une parole et une voix qui porte, que l'Allemagne, comme d'habitude, ne se mêle pas trop des affaires du monde et que Trump préfère les relations unilatérales. C'est une bonne carte à jouer, Vladimir Fedorovski, en ce moment, pour Emmanuel Macron sur la scène internationale?
Je le pense. Il renoue, contrairement à ce que dit votre invité, parce qu'il répète vraiment les choses, les clichés. Je voudrais éviter les clichés si on veut parler sérieusement. Mais vous comprenez, il renoue avec la tradition de défense de l'intérêt national français. Et l'intérêt national français exige une politique très forte avec la Russie. Le président passe, ça va sans dire, Poutine passera, j'ose même penser que le président français pensera, mais l'intérêt national reste. Et l'intérêt national exige une politique très forte avec la Russie. Ce qui se passait à Brégançon, ça dépasse les courts termes. Je pense que c'est une vraie ouverture et j'espère bien que ça va continuer parce qu'on a besoin des uns et des autres, parce qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Tout le système de contrôle de désarmement est détruit. Et si on continue à agir, vous comprenez, dans le cadre de mélangeant la propagande et la politique réelle, ça peut être quelque chose de très grave. Aujourd'hui, on manque et on croit à ces mensonges. Heureusement qu'il y a une politique aussi réelle qui s'est passée à Brégançon.
01 45 24 7000, questions ce soir sur la politique de Vladimir Poutine, la rencontre entre les deux dirigeants russes et français en ce moment au fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas, la résidence du chef d'État français. On en parle jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et puis il y a aussi le dossier syrien qui a été abordé ce soir. Mais alors là, Vladimir Poutine ne baisse pas les armes. Il a réaffirmé cet après-midi soutenir l'armée syrienne contre ce qu'il appelle les terroristes. Est-ce que c'est véritablement une fin de non-recevoir à l'appel au dialogue d'Emmanuel Macron, Nicolas Tenzer?
Je pense que de toute manière c'était totalement prévisible. C'est une fin de non-recevoir malheureusement parce qu'on sait que depuis le début du conflit, plus de 8 ans, puisque ça a commencé en 2011, le régime russe soutient le régime coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre de Bachar el-Assad. C'est quand même plus de 500 000 morts, 13 millions de déplacés, 6 en interne, 7 à l'extérieur, un nombre de blessés incalculable et une politique de répression et de crimes qui continue encore aujourd'hui, soit avec les bombardements russes et du régime dans la région d'Idleb, soit évidemment dans la partie conquise par le régime Assad, ou reconquise, où les gens meurent dans les prisons. Vous avez eu un rapport qui s'appelle le rapport César, qui documentait tous ces crimes. C'est absolument épouvantable.
Je rappelle que la Russie est accusée d'avoir... Pardon de vous couper. La Russie qui est accusée d'avoir fourni des armes chimiques contre la population dans la province d'Idlib, où les combats d'ailleurs font toujours rage. Emmanuel Macron a rappelé que le cessez-le-feu devait être respecté. Vous ne croyez pas, Nicolas Tenzer, que le président français pourra être entendu,
Je crains malheureusement que non. Je pense qu'Emmanuel Macron a rappelé quand même avec force ces crimes de guerre. Il a eu raison de le faire. Mais il a aussi dit, voilà, il y a un groupe pour ce qu'il appelle le small group, hein, pour préparer la transition politique. Malheureusement, je ne crois pas qu'avec le régime Bachar el-Assad tel qu'il est aujourd'hui, qui est un régime qui est quand même fondé sur la répression, la torture et le crime, et avec le parrain russe et l'autre parrain, hein, qui est le parrain iranien également du régime en Syrie, on puisse avancer. Et le vrai problème, c'est qu'en 2013, il y avait une fenêtre d'opportunité quand le président Hollande avait dit « voilà, je suis prêt, à, après les attaques chimiques de la Ghouta, à clouer les avions du régime au sol ». Barack Obama a reculé à ce moment-là. S'il n'avait pas reculé, on aurait épargné plusieurs centaines de milliers de vies.
Et François Hollande était prêt à l'époque à soutenir.
Et on aurait peut-être évité que la Russie, à partir de septembre 2015, s'installe en Syrie. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Et la situation est totalement désespérée tant qu'il n'y aura pas d'action militaire.
Après les armes, Paris croit en une solution politique, hein, et non plus militaire en Syrie. Vladimir Fedorovski, est-ce que Vladimir Poutine est sur la même longueur d'onde? Une solution politique.
Bien sûr. Il n'y a pas de solution militaire, ça va sans dire, mais je voudrais rappeler, vous faites l'éloge de cette période, c'est une éloge très bizarre, parce que je me souviens très bien de cette période. Je me souviens quand on a dit que je préfère, le ministre des Affaires étrangères, de M. Hollande, il a dit je préfère Al-Nusra à Damas. Al-Nusra, c'est Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda qui tue nos enfants. Et je dois vous dire qu'il faut être réaliste. À l'époque, et même maintenant, l'alternative concrète au régime d'Assad, que je condamne, évidemment, ça va sans dire, mais je tiens à vous dire...
Je crois que vous faites allusion à une information qui a été démentie par la suite.
Hein. Je tiens à vous dire que l'alternative à ça, à l'époque, c'était Al-Qaïda à Damas.
Bon,
Al-Qaïda tuait nos enfants.
C'est une vision, ça, c'est votre vision, Vladimir Fedorovski.
Je ne peux pas accepter que le politiquement correct français qui répète les mêmes contre-vérités en pensant qu'il y avait une autre alternative. J'ai connu les démocrates syriens. Et je tiens à vous dire, ce n'est pas les démocrates syriens qui seraient arrivés à Damas, mais Al-Qaïda que vous avez préféré dans la bouche de votre ministre des Affaires étrangères.
Bon, ce sont vos propos, ils vous appartiennent, Vladimir Fedorovski, d'autant que je crois que ça a été démenti par la suite. On va donner la parole à Nicolas Tenzer. Est-ce que sur ce volet, c'est cette vision de l'histoire proche, vous avez la même vision, Nicolas Tenzer?
Non, je pense effectivement que ce que dit Vladimir Fedorovski est totalement inexact. Il y avait une opportunité, il y a des démocrates syriens, il y a des libéraux syriens, il y a aussi des gens qui sont des musulmans, bien sûr, modérés, des islamistes. Al-Qaïda, encore une fois, c'est une petite fraction, de même d'ailleurs que l'État islamique. Il y a, encore une fois, présenter l'alternative entre soit Assad, soit les islamistes terroristes en quelque sorte, ça c'est de la propagande. D'ailleurs, on a vu M. Poutine aujourd'hui à Brégançon parler des terroristes. Les terroristes, dans le langage de M. Poutine ou de celui de M. Assad, c'est tous ceux qui s'opposent à Assad. Et je pense que ça c'est totalement déraisonnable. Si on enferme le débat dans ce genre d'alternatives absurdes et fausses, concrètement, on aboutira strictement à rien.
Vladimir Fedorovski, est-ce que Vladimir Poutine a une totale influence sur le pouvoir de Damas? Est-ce que c'est Poutine qui a les destinées de ce pays?
Non, pas totalement, mais c'est un facteur assez important quand même. Vous comprenez, à l'époque, quand Damas aurait pu tomber entre les mains de Nusra, c'était à quelques heures près. Quand il est intervenu. Il est intervenu à cette raison. Damas, c'est à 600 km de la frontière russe. Il est intervenu essentiellement pour ça. Maintenant, c'est un facteur incontournable, comme a bien dit aujourd'hui le président Macron. Et évidemment, sur ce plan-là, il y a des coopérations tout à fait concrètes qui s'est passées dans le domaine humanitaire. Et c'était heureusement que ça s'est passé comme ça, mais vous savez, tous ces efforts des gens politiquement corrects, des philosophes de Saint-Germain qui répètent la même chose, ont amené à la situation où la France était absente là-bas. Et grâce à cette politique plus intelligente du président actuel français, la France est de retour. Et je m'en félicite, francophile que je suis.
Alors, les propos d'Emmanuel Macron, justement, cet après-midi, il disait que la Russie est européenne, contrairement à ce que vous dites, Vladimir Fedorovski. Est-ce que Poutine a vraiment envie de se rapprocher de l'Europe, Vladimir Fedorovski? Vous ne pensez pas,
hein? Européenne. Je n'ai pas dit ça, il ne faut pas me transformer.
Alors, j'ai mal compris.
Européenne. Mais simplement, il y a un danger de rupture définitive entre la Russie, avec son histoire, etc.
Est-ce que Vladimir a envie de se rapprocher de l'Europe à l'instant?
Ce qui s'est passé autrefois sous Pierre le Grand, qui a fouetté la Russie pour se rapprocher de l'Europe.
Oui, c'était, l'empereur, c'était tout de même l'empereur de toutes les Russies entre le, 16e et 10, entre le 17e et le 18e siècle. On a changé d'époque depuis. Est-ce que Vladimir Poutine a envie de se rapprocher de l'Europe? C'est la question que je vous pose, Vladimir Fedorovski.
Je pense que oui, parce que il y a dans son entourage un courant très puissant qui pousse la Russie vers l'Asie. C'est les gens des services secrets, c'est les gens qui disent que l'Europe est en train de s'islamiser, qu'il n'y a rien à faire, etc. Poutine, il, sur ce plan-là, il n'est pas sur cette longueur d'onde, et je pense qu'il est venu de Saint-Pétersbourg, il veut renouer avec la tradition de Saint-Pétersbourg, à la fois pour des raisons politiques et pratiques. Et vous avez raison, bien sûr, le pays, la civilisation est profondément européenne.
Nicolas Tenzer, vous partagez ce point de vue, comme l'empereur de toutes les Russies, Pierre le Grand, est-ce que finalement Vladimir Poutine est un pro-européen comme Pierre le Grand ?
Non, je ne le crois pas. Je pense que surtout, si on considère que l'Europe est quand même fondée sur des valeurs de liberté, de société ouverte, de libéralisme social, culturel, je pense que le régime, encore une fois, de M. Poutine est tout à fait l'antonyme de cela. Alors, je pense qu'il faut bien distinguer la Russie du régime. La Russie, ce n'est pas une essence éternelle. La Russie, ce n'est pas une sorte d'histoire auquel il faudrait être fidèle ou infidèle. Ce n'est pas une essence. La réalité, c'est qu'on peut espérer qu'un jour viendront en Russie des générations d'hommes et de femmes, hein, c'est cela même que l'on voit dans les rues de Moscou ces temps-ci, qui seront vraiment européens, comme l'ont été ceux qui, en Ukraine, ont fait la révolution de Maïdan en 2014, au nom des valeurs européennes. Donc je ne sais pas si la Russie est européenne ou asiatique, je pense que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est bien sûr que nous avons, nous, Européens, intérêt à ce que la Russie soit avec nous, et je crois que c'est l'intérêt bien compris de la Russie. Un jour, on aura un régime de liberté, un régime démocratique, d'avoir ces coopérations. Ces coopérations, encore une fois, l'Europe, mais aussi l'OTAN, il faut le rappeler, ont cherché au début, à l'époque Helstein, à les favoriser. Et puis à un certain moment, malheureusement, et c'était la décision du pouvoir russe, tout s'est brisé et c'est tout à fait regrettable. Parce que bien sûr, y compris par rapport à la Chine, on aurait tout à fait intérêt à avoir cette grande alliance entre la Russie et l'Europe. Mais ce n'est pas avec le régime actuel qu'on pourra le conduire.
La Russie qui a obtenu un semblant de droit de siéger à nouveau hein, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont ils avaient été exclus en 2014, toujours pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui a favorisé d'ailleurs ce retour il y a 3 semaines au Conseil de l'Europe, alors que la Russie n'a pourtant pas bougé d'un iota sur sa politique en Ukraine, Nicolas Tenzer?
Écoutez, je m'interroge beaucoup. Je n'étais pas personnellement, je dois le dire, favorable à ce retour en l'absence de concessions de la part de la Russie sur un certain nombre de dossiers, que ce soit l'Ukraine, que ce soit, encore une fois, les crimes de guerre en Syrie, ou que ce soit, par exemple, la libération des 70 prisonniers politiques ukrainiens ou des 24 marins ukrainiens qui ont été capturés par la Russie. Alors, beaucoup évoquent, et le président Macron l'a évoqué aujourd'hui, la possibilité pour les citoyens russes de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Le vrai problème, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle russe à la suite d'une loi, d'ailleurs, qui l'empêchait, qui faisait que, dans les cas les plus politiques, la Cour constitutionnelle peut empêcher de tels recours plutôt d'exister, ou plus exactement, peut entraîner l'absence de validité des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur le sol russe. Donc je crains malheureusement que c'est un jeu de dupes, et moi je discute beaucoup avec des dissidents russes, et les dissidents russes, ceux qui sont des épris de la liberté, les combattants de la liberté, comme les appelait Emmanuel Macron, eh bien finalement ne se retrouvent absolument pas dans cette ouverture vers l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
On retourne au standard de France Inter 01 45 24 7000, question ce soir sur la politique de Vladimir Poutine et la diplomatie française, les relations franco-russes ce soir jusqu'à 20h. Francis nous appelle de Nancy. Bonsoir Francis.
Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs.
Merci de nous appeler.
Alors, d'abord une remarque. Moi, je suis en contact avec des étudiants russes chaque année universitaire, et je n'ai pas l'impression que la France et une quelconque importance pour la Russie et la politique de la Russie. Alors je comprends qu'on puisse sur un plateau avec des chiffres de déplacés, de morts, d'otages, de machins, de trucs, essayer d'argumenter quand on est anti-russe, mais je trouve que c'est un peu fort de café de la part de l'un de vos invités.
Vous parlez de Nicolas Tenzer, j'imagine.
Oui, c'est ça. Ma question est très simple. Je reprends les propos d'un ancien président français. Est-ce que les G7, G8, G20 et tout ce que vous voulez ont une autre fonction que celle de marketing politique? Et donc, que Poutine soit à l'intérieur du G8 ou pas, je pense personnellement que ça ne change strictement rien à sa politique, ni à la politique de la Russie, ni aux intérêts de la Russie.
Alors on va poser la question à l'ancien ambassadeur russe à Paris, Vladimir Fedorovski. Cette séance de travail Macron-Poutine, 5 jours avant le G7 à Biarritz. D'ailleurs, comment est-ce que les deux rendez-vous sont liés finalement ?
C'est un rendez-vous symbolique, mais je tiens à vous dire que, vous comprenez, le rendez-vous avec Macron, je pense que c'est presque plus important que G8, mais je vous dis, d'après mes informations, les Russes ne veulent pas aller revenir à ce que vous appelez les G8, ce qui n'existe pas. Vous comprenez, ils ont été assez blessés par cette histoire, parce que, vous savez, c'est une chose close, mais renouer le dialogue avec tout le monde, c'est une bonne chose pour la Russie renouer avec cette tradition russe de quand même des rapports avec l'Europe. C'est une très bonne chose. Et l'homme qui a posé la question, il sent ça Francis. Très bien. On voit. Je tiens à le souligner puisqu'il est en contact direct avec la Russie réelle. Pas les Russies des clichés, pas les Russies des philosophes de Saint-Germain et de la propagande qu'on nous livre votre invité.
Eh bien, on va poursuivre les questions, on va continuer de donner la parole à Nicolas Tenzer, dont les propos ce soir sont très discutés. Juste sur les relations entre les chefs d'État français et russes, les relations à l'époque n'étaient pas très bonnes entre Vladimir Poutine et les deux précédents présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Nicolas Tenzer, est-ce que le courant passe mieux avec Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui change entre la présidence Macron et les présidences précédentes?
Alors, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Tout d'abord, ce qui ne change pas, c'est que, y compris à l'époque de François Hollande, les contacts n'ont jamais cessé entre la Russie et la France. Il y avait toujours eu des contacts entre les diplomates du plus haut niveau, entre, de fait, les ministres des deux gouvernements. C'est penser qu'il n'y avait pas eu de discussion à l'époque de Hollande est concrètement, pratiquement, totalement inexact. Sous Nicolas Sarkozy, il y a eu deux périodes. Il y a eu une période un peu où les relations étaient tendues au début, et puis après, on a vu Nicolas Sarkozy finalement être plutôt, disons, assez favorable à un dialogue renforcé avec Vladimir Poutine. On peut rappeler quand même la vente des Mistral, par exemple, à Vladimir Poutine,
annulée
par la suite. Voilà, exactement. Donc voilà, avec Emmanuel Macron, là où il y a une différence, c'est qu'Emmanuel Macron considère qu'il doit discuter avec tout le monde et qu'il peut discuter en donnant les apparences de la chaleur, aussi bien avec Monsieur Trump, hein, on l'a vu avec l'espèce de calinothérapie à l'égard du président américain. Je pense qu'il avait raison d'essayer, même si ça n'a pas donné beaucoup de résultats, et on le voit aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Mais encore une fois, sur le fond, il n'y a rien de changé fondamentalement.
Et la parole française n'a pas plus de poids aujourd'hui qu'elle n'en a hier, mais simplement la méthode semble changer. À propos de diplomatie, Vladimir Fedorovski, question sur le rôle exact de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, qui a joué les bons offices entre Paris et Moscou déjà sous François Hollande et également aujourd'hui sous Emmanuel Macron. Quel est son rôle précisément à l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement?
Vous savez, il est aussi dans la tradition, il a uni les deux. Il vient de socialiste d'une part, mais d'autre part, c'est quelqu'un qui est dans la tradition gaullienne, pour vous dire. Et évidemment, il a poussé à renouer le contact avec la Russie. Il joue ça d'une manière efficace, je trouve, pour continuer ces contacts qui sont si nécessaires. Il faut se saluer que quand même il y a les gens lucides qui nous s'éloignent des clichés qui sont propagés dans le petit milieu, dans la réalité, et qui prônent la politique réelle. Le dernier article de grand ministre des Affaires étrangères français de l'époque de Hubert Védrine va dans le même sens.
Alors parmi les dossiers de crispation internationale, il y a aussi le nucléaire iranien qui fâche les États-Unis. Paris et Moscou veulent d'ailleurs sauver cet accord de Vienne conclu en 2015, déchiré depuis par le président américain, cet accord de Vienne qui gèle le programme iranien. Paris et Moscou sont d'accord pour le relancer, mais ont-ils la même méthode pour y parvenir, Nicolas Tenzer?
Je crois qu'il y a effectivement, c'est peut-être le seul point d'accord finalement entre Moscou et Paris. L'idée que Moscou puisse véritablement faire pression sur Téhéran pour qu'il revienne dans un accord, même sans les États-Unis, on peut en discuter. À la fois, est-ce que vraiment Moscou a cette capacité? Ce n'est pas évident. Les Iraniens ont montré quand même une capacité de leur côté de décider en quelque sorte seuls. Deuxièmement, est-ce qu'il y a véritablement, compte tenu de la volonté de Moscou de continuer à déstabiliser le Moyen-Orient, cette volonté de remettre l'Iran dans le bercail? C'est pas du tout évident. Et je pense qu'on peut... On peut être aussi assez pessimiste, même si là-dessus, je dis bien là-dessus, il y a une ligne commune entre les deux capitales.
Un rappel historique, Vladimir Fedorovski, Vladimir Poutine a des relations privilégiées avec l'Iran et ça remonte assez loin dans l'histoire des deux pays, Iran-Russie.
Moi, ça remonte assez loin, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même les médias. Mais sur beaucoup de sujets, les Français et les Russes, pour cette fois-ci, d'où vient la chaleur de la rencontre, c'est l'international, c'est pas les rencontres personnelles. Vous comprenez, sur l'Iran, ils sont beaucoup plus proches, les Russes et les Français, que les Français et les États-Unis. Sur la Syrie, vous comprenez, le retour de Français éventuels dans les négociations sur la Syrie est quand même accueilli avec un certain sympathie par les Russes. Tout ça, ça compte. Sur la Libye, ils travaillent ensemble. Sur il y a d'autres, sur le climat. Vous savez, il ne faut pas être dans le dénigrement systématique quand même des rapports avec la Russie. C'est un facteur très important pour la France et pour la Russie. Et je pense que cette rencontre peut donner quelque chose de tout à fait positif et significatif.
Parmi les dossiers abordés aujourd'hui à Bormes-les-Mimosas, au fort de Brégançon entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il y a aussi ce désaccord sur les valeurs, les valeurs démocratiques de la Russie de Poutine. Devant le chef, Le président russe Emmanuel Macron a appelé au respect de la liberté d'expression et du choix de chacun de se présenter à des élections en Russie. Là encore, question des auditeurs, quel poids la parole d'Emmanuel Macron peut-elle, quel poids peut-elle avoir cette parole d'Emmanuel Macron, Nicolas Tenzer? Vous êtes parmi les plus pessimistes de ce plateau.
Je suis effectivement pessimiste, je n'accepte pas tellement le terme de propagande, parce que je rappelle malgré tout des faits. Quand je parle d'agression, ce sont malheureusement des faits. Après, on peut toujours souhaiter un dialogue, ce que je souhaite aussi, bien sûr. Mais il faut quand même rappeler la réalité des faits. Maintenant, encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron a raison sur un point. Il a raison d'abord de rappeler l'universalité de ses valeurs. Il l'avait fait déjà l'année dernière et l'année précédente, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il avait parlé des combattants de la liberté. Il avait dit il n'y a pas de relativisme dans les valeurs universelles. D'ailleurs, on le voit partout, que ce soit à Moscou, que ce soit à Hong Kong, que ce soit au Soudan, que ce soit en Algérie. On voit des peuples se lever pour leur liberté, il faut être à leur côté. Donc quand Emmanuel Macron rappelle à Vladimir Poutine les élections libres sont un principe, ça fait partie des valeurs européennes avec lesquelles on ne peut pas transiger, il a évidemment raison. Maintenant, le poids de ces discours, c'est en quelque sorte un discours qui est, j'allais dire, pour le futur, pour rappeler qu'un jour, la Russie sera libre. C'est quand même ce qu'avait rappelé. Juste un petit point d'histoire, vous avez parlé de Gaulle, Monsieur Fedorovski. En 1964, De Gaulle a fait un grand discours où il a dit « Je rêve d'un jour où ces peuples de l'Est européen, à l'époque c'était sous domination soviétique, seront libres. » Eh bien, je pense que pour la Russie, on peut avoir le même espoir.
Les manifestants qui reprochent à Vladimir Poutine de confisquer le pouvoir, ils sont sévèrement réprimés par milliers. Vladimir Fedorovski, est-ce que vous y voyez juste une fissure ou plutôt une fracture qui ne cesse de se creuser depuis quelques mois entre Poutine et le peuple russe?
Non, ça c'est pas vrai, mais en revanche, vous comprenez, moi je condamne évidemment l'utilisation de la force des manifestants. Mais encore une fois, dans l'esprit, pas dans l'excès d'optimisme, mais dans l'esprit plutôt de l'équilibre. Moi, j'étais porte-parole des antipoutchistes, vous vous souvenez, aujourd'hui c'est le 19, août, c'était le putsch de Moscou, il y a 28 ans, et pourquoi on a réussi l'exercice? J'étais vraiment participant dans la chute du communisme. Parce qu'il n'y avait pas de tension internationale. La confrontation, ça profite aux forces du mal, aux nationalistes, partout, etc. Et je dois vous dire, c'est pour ça que je suis partisan d'une certaine détente, dégel, parce que ça peut contribuer à l'évolution de la société russe beaucoup plus que vous pensiez. Et ça, c'est un facteur aussi de l'intérieur. Sur ça, la tonalité que utilisait le président Macron, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il pense à l'avenir, à l'histoire longue. Alors, le fait que ce dégel va profiter aux démocrates russes, et c'est pour ça qu'on a réussi autrefois de tomber le communisme. Personne ne s'est souvenu que c'est aujourd'hui. C'est une date symbolique.
Ce 19
et on le fait à votre
août.
Meilleure station de radio.
C'est gentil. Vladimir Fedorovski, je vais vous remercier car vous nous avez demandé de vous libérer un peu plus tôt. Je crois que vous avez d'autres engagements dans les prochaines minutes.
Absolument, et je vous remercie encore et je salue l'esprit de russophilie qui a primé sur notre émission.
Merci Vladimir Fedorovski, et puis je signale votre prochain livre, ce livre qui sortira en octobre, qui s'appelle Le roman vrai du docteur Jivago. Ça sortira aux éditions du Seuil. Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po et président du Centre d'études de réflexion pour l'action politique. À propos de Vladimir Poutine, on va rappeler que son mandat se terminera en 2024. En principe, il ne pourra plus se présenter. Est-il envisageable que Vladimir Poutine modifie encore la Constitution pour rester au pouvoir sous une forme ou sous une autre?
C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Hein. Après tout, c'est quelque chose que le président chinois Xi Jinping a fait de son côté. Pourquoi pas en Russie? Ou bien on peut avoir de nouveau une sorte de prête-nom ou de président plus ou moins actionné par Vladimir Poutine, comme l'était de fait Medvedevski hein, pendant la période, je dirais, antérieure. Tout ceci est tout à fait possible. Le vrai sujet, je pense, qui est un sujet de long terme et qui va bien au-delà de la question de la personnalité de M. Poutine, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a des gens en Russie susceptibles, en quelque sorte, de fournir une classe politique de rechange? Moi, je crois qu'elle existe, évidemment, du côté d'un certain nombre de mouvements démocratiques, de mouvements de dissidents, dont on voit certains leaders apparaître petit à petit dans les manifestations en Russie. Encore faut-il leur laisser un espace, parce que rien ne serait plus dangereux qu'un jour, qu'on ait comme ça une disparition de M. Poutine, et que reprennent le pouvoir ceux qui sont dans son entourage, qui sont pour certains des affairistes, pour d'autres des anciens, toujours membres des services secrets. Ce serait totalement désespérant. Et je crois que le vrai sujet, c'est préparer, et c'est pour ça qu'il faut, nous, de notre côté, en Occident, soutenir tous les dissidents. C'est préparer cette transition démocratique.
Mais cette transition, je posais la question tout à l'heure à Vladimir Fedorovski, je vous la pose aussi. Est-ce que ces mouvements, non pas d'humeur, mais de colère hein, contre la confiscation de la démocratie par Poutine en ce moment dans plusieurs villes de Moscou, est-ce que vous n'y voyez qu'une fissure ou bien une fracture qui pourrait se creuser davantage dans les mois, les années à venir entre Poutine et le peuple?
Moi, je crois que c'est une fracture qui va se creuser davantage et que l'on voit de plus en plus fortement. D'ailleurs, il y avait un sondage récemment hein, qui montrait que 44% des jeunes entre 15 et 29 ans voulaient quitter le pays parce qu'ils étaient désespérés sur le plan politique, mais aussi évidemment désespérés sur le plan économique. La Russie, au cours de l'année dernière, a vu plus de 500 000 pauvres nouveaux, de gens vivant en dessous du seuil de pauvreté, apparaître. Le vrai problème aussi, c'est que vous n'avez pas de développement profond de la Russie, un tissu de PME qui est très très faible, un tissu d'entrepreneurs qui est très faible, un niveau de vie qui est absolument dramatique pour beaucoup de Russes.
Les promesses de Vladimir Poutine en campagne électorale n'ont pas été respectées. Il promettait de rendre la Russie au peuple. Ça n'a jamais eu d'effet concret dans ses années de pouvoir.
Oui, et c'est ça, je pense, l'un des vrais problèmes, parce que quand on voit les sommes dépensées, soit en matière d'armement, soit en matière de propagande, soit pour maintenir en quelque sorte l'appareil de pouvoir, ce sont des sommes qui ont été diverties de l'économie, et d'une économie qui est extrêmement dépendante du cours du pétrole et du gaz. Quand le pétrole et le gaz diminuent, ça veut dire aussi moins de ressources pour l'État, et comme le budget en quelque sorte consacré aux forces armées, notamment, est à peu près incompressible, du point de vue évidemment de M. Poutine, que reste-t-il pour les autres? Et je pense que le vrai sujet, c'est justement créer les conditions d'un libéralisme, d'institutions transparentes, lutter contre la corruption, moderniser le pays. Et je pense que c'est ça qu'attendent aussi les Russes. Et ce désamour, ils croient pour cette raison-là, au-delà évidemment du contexte politique.
Allez, on va prendre une dernière question au Standard de France Inter avec André qui nous appelle de Rueil-Malmaison près de Paris. Bonsoir André.
Oui, bonsoir. Je suis un peu déçu d'entendre aussi bien un professeur, moi je suis économiste et j'enseigne pas au même niveau, et Fedorovitch, bon on le connaît.
Vladimir Fedorovski.
Oui, Fedorovski, excusez-moi. Et donc, on n'a pas placé du tout le sujet dans le contexte.
C'est-à-dire...
Parce qu'on parle beaucoup de politique. Or, le G7, c'est un groupe de discussion et de partenariat économique. Alors, il faut replacer ça, le contexte. Le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est Hong Kong. C'est les problèmes entre la Chine et les États-Unis. C'est les problèmes qu'il y a au sein de l'Europe. C'est les relations tendues entre Trump, Macron, au niveau économique. On parle de petits sujets, mais la réalité, c'est quoi? Et on n'a pas parlé de ça. C'est que moi, je suis proche de certains milieux ukrainiens. Il faut savoir que, avant tout, les Ukrainiens ont une haine pour le gouvernement soviétique, pas pour les soviétiques, mais pour le gouvernement actuel de Poutine, qui est très important. Parce que les Ukrainiens sont en train d'essayer de se rapprocher de l'OTAN, comme vous le savez, mais aussi se rapprochent des États-Unis. Il y a un projet que je connais très très bien.
On va faire un peu court, s'il vous plaît, dans cette remarque, pour en venir à une question. Aviez-vous une question précise ou juste une remarque?
Oui, je voudrais dire que on n'a pas parlé d'une chose très importante. Le nouveau président ukrainien, le chanteur comédien, qui est très autonomiste, indépendant, énormément apprécié par tout le monde, justement, n'a pas hésité dans ses chansons et maintenant à faire le ménage comme on l'a rarement vu. Il fallait voir, il faut écouter la cérémonie d'investiture de ce président qui dit clairement ce qu'il veut pour justement l'Ukraine et qui explique justement que lui, il souhaite justement qu'on revienne à une indépendance et qu'on règle ce problème.
Eh bien, merci de l'avoir dit ce soir sur France Inter pour rétablir un peu d'autres faits qui manquaient selon vous à ce débat. Merci André qui nous appelait de Rueil-Malmaison. Une dernière question, Nicolas Tenzer, à propos de l'espionnage russe. Hein, c'est une des questions qui revient ce soir au Standard de France Inter. C'est comme une marque de fabrique chez Vladimir Poutine, lui-même ancien officier du KGB. Ça passe désormais par le cyberespionnage et l'influence des trolls, hein, tous ces faux comptes sur les réseaux sociaux. Question, est-ce que les Russes sont devenus les maîtres mondiaux en la matière d'espionnage via les trolls et autres cyberespionnages? Vous avez quelques secondes pour répondre.
Oui, parce que l'espionnage, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'espionnage.
Évidemment.
Il y a aussi, encore une fois, les attaques, le trolling, etc. Il faudrait distinguer beaucoup de choses. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vieille tradition d'espionnage à proprement parler du côté de la Russie avant de l'Union soviétique, que vous avez aussi des dépenses colossales, plus de 2 milliards d'euros par an, qui sont consacrées à des actions de propagande, y compris de ce qu'on pourrait appeler la propagande douce. C'est pas uniquement attaquer, c'est pas uniquement hacker, mais c'est aussi essayer de lancer un certain nombre de récits qui peut petit à petit envahissent l'opinion publique. Je vais vous en donner deux exemples rapidement.
On n'a plus le temps, malheureusement.
La Riscour a été humiliée, par exemple.
Oui.
C'est faux. La Riscour est attaquée par l'OTAN. C'est faux.
On a fait le tour, malheureusement. Je suis obligé de vous couper, Nicolas Tenzer, parce qu'il ne nous reste plus que 15 secondes. Le temps de remercier l'équipe du Téléphone Sonne ce soir, à la réalisation Hélène Bizio, à la technique Patrick Henry, Michel Bézikian, à la préparation Pierre de Certaine, Emma Ferré et Mathilde Sourd. Les 4 tops sur France Inter. On se retrouve demain. Il est 20h.